Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Allô, allô. Bonjour. Ah, ça y est, je vous entends. Je vous entends. Notre invité est là, les amis. Bonjour à tous. C'était de ma faute, Enzo. Ne vous inquiétez pas. Vous allez apparaître dans quelques instants à l'écran. Vous pouvez prendre le temps de tout remettre. Il n'y a aucun souci. Voilà, Enzo, je vous mets, Enzo Traverso, je vous mets à l'écran. Ah bah tiens, bon, on voit votre maison. Vous êtes en direct de l'État de New York, tout près de l'université de Cornell où vous enseignez. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Merci pour cette invitation.
Je vous en prie, vous éditez vos livres à la fabrique, vous les éditez cette fois-ci chez Lux. Vous êtes évidemment le bienvenu. Ce sont des bonnes maisons que nous connaissons, qui sont bien tenues. Voilà. Et votre livre est super. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Mon cher Robin, j'ai un petit peu d'écho dans le casque, si jamais tu peux régler ça. Enzo, je vais me permettre d'introduire notre conversation. Et après, on va démarrer. Quand les mots ne font plus sens, l'histoire vient nous en donner. Au poste, à la joie de vous recevoir, vous, l'éminent historien italien, Enzo Traverso, Observatoire des politiques de la mémoire et du totalitarisme, traduit dans une quinzaine de langues. Vous venez avec votre ouvrage Gaza face à l'histoire, qui paraît donc chez Lux, belle petite maison d'édition montréalaise, un livre court, incisif, déroutant parfois, dissonant souvent. C'est d'ailleurs comme ça que vous exprimez, vous expliquez que vous avez un point de vue dissonant. Un livre en situation, comme vous le dites aussi. Comment regarder ou ne pas regarder la destruction de Gaza depuis bientôt un an? Qui parle de riposte, d'éradication ou de processus génocidaire et pourquoi? Votre dernier ouvrage sonne comme un plaidoyer pour s'affranchir du récit orientaliste dominant. On va revenir sur cette notion que vous évoquez dans un des chapitres. Et vous nous invitez à penser l'histoire de ces mots, antisémitisme, sionisme, génocide, terrorisme, raison d'État. Vous refusez la caution d'un génocide au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Et maintenant, je fais une petite page de publicité pour Au Poste et après c'est parti. Je vous le rappelle, pour que l'information libre tienne, il faut la financer. Merci mille fois aux donateurs et aux donatrices d'Au Poste. Soutenez Au Poste pour défendre les libertés et une gauche critique. Vos dons servent à couvrir loyer, salaire, cotisation, matériel, transport, communication et tout le tralala et à payer les moyens techniques. Enzo Traverso, est-ce que cette introduction vous convient?
Oui, parfaitement. très synthétique, mais très juste.
Ah, la synthèse, en ce qui me concerne, c'est que dans les introductions. Après, je divague. Et au moins pour cet exercice, j'essaie de synthétiser. Un livre en situation, écrivez-vous, page 10. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Ça signifie tout simplement que j'ai dérogé un peu à une règle, on pourrait dire entre guillemets, qui préside au travail des historiens. Normalement, les historiens publient un livre après des années de recherche, des années de recherche dans lesquelles ils ont pu rassembler, analyser, étudier, interpréter des sources. Ce livre est né dans l'urgence, est né dans la colère. Je ne cache pas les sentiments de colère qui ont accompagné la rédaction de ce texte. Et ce texte est une réflexion qui surgit du 7 octobre et du génocide qui a suivi le 7 octobre. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire au sens conventionnel, traditionnel du terme. Ce n'est pas une histoire de la guerre ou du génocide à Gaza. C'est une réflexion sur le présent à la lumière de l'histoire. Et je pense, disons, pouvoir le faire avec mes outils, très modestement, mais disons avec mes outils d'historien de l'Europe contemporaine. Je ne suis pas un spécialiste du Proche-Orient, de la Palestine ou d'Israël. Je pense que d'autres, bien plus équipés que moi pour accomplir cette tâche, écriront une histoire de la guerre et du génocide à Gaza dans les années qui viennent, quand il y aura le recul nécessaire pour écrire un tel livre et quand on disposera aussi des sources indispensables pour faire ce travail. Mais cette guerre a tel point mobilisé tout un arsenal conceptuel, un lexique qui est celui de l'histoire du XXe siècle, des génocides, de l'antisémitisme, du sionisme, terrorisme, je me suis senti interpellé en tant qu'historien, puisque j'ai travaillé sur ces thèmes, et je pensais nécessaire essayer d'apporter quelques éléments de clarté dans un débat souvent confus dans lequel les mots sont abusés ou instrumentalisés.
Alors faites gaffe avec le mot clarté, hein, parce que c'est celui qu'avait prononcé Macron quand il a fait la dissolution ici pour amener un peu de clarté. Alors si vous voulez, on se méfie un peu de ce terme-là. En revanche, il y en a un autre que vous prenez pour vous, vous dites que vous avez un point de vue dissonant. Dissonant, en fait, par rapport à qui et à quoi exactement ?
Oui, alors je dirais que par rapport aux millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour protester contre le génocide à Gaza, et par rapport, je dirais, à la vision du conflit, de cette crise qui est aujourd'hui dominante dans ce qu'on appelle le Sud global, mon point de vue n'est pas du tout dissonant. Mon point de vue est même, je dirais, presque banal, mais il est dissonant dans le monde occidental si on considère les prises de position officielles des chefs d'État et de gouvernement. Depuis le 7 octobre, si on considère aussi l'orientation des grands médias, européens et américains, par rapport aussi à une certaine, doxa, une posture normative qu'on voudrait imposer au monde intellectuel et même au monde de la recherche, qui est traversé par des conflits, des contradictions, des débats. L'université américaine en particulier, pas que américaine, hein, il y a eu des grandes mobilisations en France aussi, dans d'autres pays, mais les États-Unis ont été un peu l'épicentre du mouvement contre la guerre dans les pays occidentaux. Donc l'université est très affectée par cette crise, mais on a essayé aussi de museler certaines voix critiques. Et dans ce contexte, je pense que ma voix est une voix dissidente. Oui. Alors, heureusement, je ne suis pas seul. Elle n'est pas isolée, ma voix dissidente.
Page 9, les choses sont clairement dites. Il y a pas d'ambiguïté, parce que on va voir que ensuite il y a ce qui pourrait apparaître comme ambigu, mais qui en fait n'est que dissonant, hein, mais ambigu par rapport à effectivement la doxa générale. D'entrée, hein, vous expliquez que l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 a fait l'objet presque partout d'une condamnation nécessaire et compréhensible. Je me permets de citer un autre passage, page 18, où vous dites « Le discours dominant autour du 7 octobre fait de cette date une sorte d'épiphanie négative, une apparition soudaine du mal d'où jaillit une guerre réparatrice. Le compteur est reparti à zéro ce jour-là, comme s'il s'agissait de la seule origine de cette tragédie. Le 7 octobre n'est pas une soudaine explosion de haine, il a une longue généalogie. » Et j'ai un un autre passage que je pourrais citer tout à l'heure, page 87, où vous, à propos du Hamas, je vais dire tout de suite, comme ça, ça permettra de montrer d'où vous parlez. Faut-il critiquer le fondamentalisme du Hamas, son autoritarisme, le caractère antidémocratique, misogyne et réactionnaire de ce mouvement ? Sans aucun doute, écrivez-vous. Dans une société libre, le Hamas serait, à n'en pas douter, le principal ennemi de la gauche. Dans les circonstances actuelles, il oppose une résistance militaire au génocide en cours. Donc voilà, j'ai voulu dire d'emblée que voilà, vous avez été choqués, évidemment, légitimement, naturellement, par ce qui s'est passé le 7 octobre, mais vous ne voulez pas qu'on s'empêche de réfléchir.
Oui. Oui, et je suis outré, pour utiliser les mots assez courants de nos chefs d'État et de gouvernement qui ont commenté le 7 octobre et tout ce qui a suivi encore ces derniers jours. Nous avons entendu les commentaires de Joe Biden et Kamala Harris au sujet des drones qui ont été lancés depuis l'Iran contre Israël, ou de l'attentat de Jaffa, hein, qu'on peut très bien condamner, mais bon, ils n'ont pas hésité une seconde à exprimer leur indignation. Ben, je n'ai jamais entendu un seul mot d'indignation, ou ils ne se sont jamais montrés outrés devant les 45 000 morts de Palestiniens de Gaza, ou devant 1 million de réfugiés libanais après les bombardements et l'intervention militaire israélienne au sud Liban. Donc c'est une indignation et une outrance très sélective à laquelle nous avons assisté jusqu'à présent, et je pense que c'est ça l'outrage, c'est ça qui est inacceptable et qui suscite l'indignation. Donc je suis outré pour ces raisons-là. Et pour ce qui concerne le Hamas, peut-être on va y revenir dans notre
bien sûr
discussion, mais ma position est assez claire. Je condamne l'attaque du 7 octobre qui visait des civils et qui, à mes yeux, sous ses formes et pour ses disons la façon aussi dans laquelle il a été conçu nuit et dessert la cause palestinienne, mais je n'ai pas de doute quant à l'appartenance du Hamas à la résistance palestinienne, et cela relève de l'évidence pour tous les Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui critiquent le Hamas, mais personne ne conteste, disons, le Hamas comme force qui incarne et qui représente la résistance palestinienne. Et cela, les ennemis du Hamas aussi le reconnaissent, parce que c'est bien avec le Hamas qu'il y a eu ces simulacres de négociations jusqu'à présent. C'était bien l'interlocuteur. Et donc, moi, je suis un homme de gauche, je ne le cache pas, mais je pense qu'il faut éviter deux attitudes antinomiques, les deux pôles extrêmes qui sont les deux stériles et discutables. D'un côté, ceux qui je n'en ai pas vu beaucoup, mais ceux qui descendent dans la rue avec le drapeau du Hamas, je pense que ce serait une très mauvaise attitude. De l'autre côté, ceux qui disent non, le Hamas c'est un groupe, une bande de terroristes fanatiques et fondamentalistes, rien à voir avec la résistance palestinienne, comme si c'était nous, que sais-je, à New York ou à Paris, qui pouvions décider qui fait partie et qui ne fait pas partie de la résistance palestinienne, comme si nous pouvions donner des leçons. C'est un constat objectif. La violence contre une oppression qui est une oppression systémique, qui est une oppression qui dure depuis des décennies, et le recours aux armes contre cette oppression est légitime, et ça c'est reconnu par le droit international. Reconnaître la légitimité de cette violence ne signifie pas cautionner la violence des opprimés sous toutes ses formes. Il peut y avoir des pratiques de la violence qui sont condamnables, qu'on peut rejeter et qui sont même inefficaces. Mais ça, c'est un débat qui doit avoir lieu. Je rappelle dans mon essai que le recours à la violence appartient à l'histoire de tous les mouvements de libération nationale, des luttes contre le colonialisme à la résistance en Europe.
Oui, d'ailleurs, vous avez, en tant qu'historien, d'ailleurs, vous nous rappelez Manoukian, le groupe Manoukian, aujourd'hui panthéonisé, qui a utilisé la violence. Hein. Il y a tout un chapitre, mais on y viendra tout à l'heure. Le chapitre s'intitule « Violence, résistance, terrorisme ». Mais avant d'entamer la discussion sur l'orientalisme, qui va répondre à une des questions du chat que je vais vous remonter, je voudrais juste vous poser une petite question, parce que je me doute que vous allez faire encore quelques analogies historiques le long de cet entretien. Et page 15, vous nous mettez en garde, et j'aimerais avoir un peu plus de précision. Vous dites « les analogies historiques qui ne sont jamais des homologies ». Qu'est-ce que ça signifie exactement pour bien vous écoutez après, quand vous allez nous parler de la Deuxième Guerre mondiale, quand vous allez nous parler de tout un tas d'événements historiques sur lesquels vous appuyez pour développer votre pensée, vous nous mettez en garde quand même.
Oui, parce que l'histoire ne se répète jamais. Il n'y a pas d'homologie, il n'y a pas de reproduction. Ou de correspondance, disons mécanique, de reproduction à l'identique des événements du passé. Néanmoins, il y a des affinités, il y a ce qu'on peut appeler des analogies, et le comparatisme, la comparaison entre des événements historiques différents, qui appartiennent à des époques, à des contextes historiques différents, à des contextes aussi politiques, culturels, géographiques, qui peuvent varier considérablement. Ces analogies peuvent nous éclairer, peuvent nous aider à interpréter et à mieux comprendre le présent. Et donc, je pense qu'on peut faire un bon usage des analogies, tout un sachant que les analogies ne nous donnent pas la clé pour comprendre le présent. Mais, comment dire, cette comparaison et cette analogie, ce n'est pas moi qui l'a introduite dans le débat. Cette analogie a surgi dès le 7 octobre. Le premier commentaire qu'on a pu écouter dès le lendemain de l'attaque, la formule qui a été répétée d'une manière presque, disons, obsessionnelle et qui est revenue dans la bouche de beaucoup de commentateurs et même, je répète, de ministres, de chefs d'État et de gouvernement, a été le 7 octobre comme le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste. Donc, on a introduit immédiatement des concepts qui impliquent une analogie historique. Et donc, il faut se demander, est-ce qu'il y a un rapport entre le 7 octobre et l'Holocauste? Et qu'est-ce que c'est qu'un pogrom? Et est-ce qu'on peut définir le 7 octobre comme un pogrom? La question, disons, je pense avoir quelque chose à dire sur cela en tant qu'historien, précisément de l'Holocauste et de l'antisémitisme en Europe. Or, les pogroms étaient une violence organisée, planifiée, systémique, mise en œuvre par le régime des tsars entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, avant la Grande Guerre et la Révolution d'Octobre, contre une minorité qui était la minorité juive de l'Empire des tsars, qui était une minorité opprimée. Les Juifs subissaient toute une série de discriminations, de formes d'exclusion, d'oppression, codifiées par la loi. Et donc les pogroms étaient la violence du pouvoir contre une minorité opprimée. Le 7 octobre, c'est la violence spectaculaire d'une minorité opprimée contre le pouvoir qui l'opprime. Donc, le rapport est exactement renversé. Ou alors, si on utilise le mot pogrom au sens figuré, une violence extrême contre un groupe, alors à ce moment-là, il faut partir du constat que Israël n'a pas arrêté de perpétrer des pogroms contre les Palestiniens depuis 1948. Et je rappelle dans mon livre que lors de l'année dernière, 2023, avant le 7 octobre, l'armée israélienne avait déjà tué quasiment 250 Palestiniens à Gaza. Donc si on parle de pogrom dans ce sens-là, évidemment, on peut faire le bilan et Israël est beaucoup plus pogromiste que ne l'ont été les Palestiniens. Mais si on fait cette référence à l'Holocauste, le plus grand pogrom de l'histoire après l'Holocauste, cela donne une lecture, suggère immédiatement une lecture du 7 octobre. Qu'est-ce que c'est que le 7 octobre? C'est une explosion de haine antisémite. C'est l'éruption de l'antisémitisme. C'est une nouvelle étape de la haine éternelle contre les Juifs. Et évidemment, cette lecture relie le 7 octobre à l'Holocauste, et cette lecture efface complètement toute la séquence historique de l'oppression subie par les Palestiniens et infligée aux Palestiniens par Israël. Et donc, c'est dans ce cas, je dirais, un très mauvais usage des analogies, un abus des analogies. Des analogies nous diraient exactement le contraire. Et puis, si je peux ajouter un dernier élément, cette vision de l'antisémitisme est une vision très problématique parce que l'antisémitisme a une histoire, l'antisémitisme a des racines, a une culture, une idéologie, des pratiques. L'antisémitisme est né dans l'Europe chrétienne du Moyen Âge. L'antisémitisme qui a ensuite évolué. Donc, présenter le Hamas comme le vecteur de l'antisémitisme signifie faire de l'antisémitisme une espèce de pieuvre d'entité universelle, disons, qui dépasserait toutes les frontières nationales, religieuses, culturelles, etc. C'est un peu une vision analogue, pour faire encore une fois une analogie, avec la vision des Juifs qui était portée par l'antisémitisme. L'antisémitisme défendait l'idée, était hanté par cette idée du juif malfaisant et d'une conspiration juive internationale. Les juifs auraient été, disons, un élément corrupteur, une sorte de cancer des peuples et de la civilisation partout dans le monde. dans tous les pays et à toutes les époques. Je pense que les analogies historiques nous aident à ne pas tomber dans ce piège.
Alors, je vous propose une analogie qui nous vient du chat. Il faudrait juste que je la retrouve. Mince, elle vient de partir. Attendez, excusez-moi, elle vient de partir. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Mince, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est passée cette analogie? Enfin, c'était Twisted qui disait. Que Gaza était un camp de concentration devenu en ce moment un camp d'extermination. Voilà par exemple une analogie. Est-ce que c'est qui est très très tranchante? Est-ce que vous, l'historien du nazisme notamment, est-ce que vous considérez que c'est une analogie qu'on peut faire ou elle raccourcit trop les choses? Est-ce qu'elle aide ou pas à la conversation, à la réflexion?
Oui, je pense qu'elle raccourcit trop les choses, parce qu'il n'y aurait pas d'extermination à Gaza. Gaza a été rayé de la carte, pratiquement. Plus de 80% de Gaza est devenu inhabitable. Donc il y a une destruction systématique de Gaza. Je pense que le concept de génocide est parfaitement pertinent pour décrire ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Mais l'analogie avec les camps d'extermination ne me paraît pas pertinente parce que, disons, il n'y a pas eu un processus de déportation des Palestiniens à Gaza pour les exterminer. Je pense que c'est un génocide qui vise un but qui est celui de l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Finalement, c'est un génocide dont le but ultime est le nettoyage ethnique de Gaza. Et cela, c'est le but, disons, explicitement revendiqué par au moins une partie du gouvernement israélien, la recolonisation juive de Gaza. Alors, si on veut faire, encore une fois, une analogie derrière la violence génocidaire d'Israël à Gaza, il y a un projet colonial. Et un projet colonial qui s'inscrit dans une tradition du colonialisme. Et les colonialismes ne sont pas tous pareils. Il y a toute une série de différences entre un colonialisme et un autre. Le colonialisme sioniste en Palestine est un colonialisme de remplacement. Disons, on peut le comparer, disons, quand on nous dit Israël, c'est la seule démocratie du Proche-Orient, etc., ça me fait penser à la démocratie en Amérique de Tocqueville. Tocqueville qui fait l'éloge de la démocratie américaine et il reconnaît entre les lignes que la prémisse de cette démocratie américaine a été l'extermination des indigènes qui peuplaient les États-Unis. Donc je pense que cette analogie est beaucoup plus pertinente que celle avec les camps d'extermination nazis. Entre autres, cette comparaison avec les camps d'extermination nazis est immédiatement saisie et utilisée par les commentateurs bien pensants et les tenants du pouvoir pour dénoncer, disons, le caractère antisémite de bon. Et je ne pense pas que ça soit très approprié cette analogie, même si je peux comprendre l'état d'esprit qui inspire.
Hein. Alors,
je souligne une chose, disons. C'est frappant de constater à quel point Israël veut mettre à la porte, veut se débarrasser des Palestiniens et ils veulent, quand ils ont besoin de main d'œuvre, Hein, Israël importe des migrants des Philippines, d'autres pays du Moyen-Orient, mais disons il y a une focalisation explicite sur les Palestiniens. Cela révèle un peu les formes spécifiques du colonialisme israélien, qui est un colonialisme de remplacement. Hein, c'est autre chose que, disons, l'antisémitisme nazi. De ce point de vue-là, l'analogie, je pense, ne tient pas la route.
On voit dans votre réponse très limpide, saluée comme telle par le chat, on voit à la fois la nuance et parfois la radicalité de votre propos. Alors, il y a une autre question du chat qui va nous amener, je pense, à votre chapitre sur l'orientalisme, qui est page 29. La question du chat, c'est: quelle est l'explication du soutien international des grandes puissances occidentales envers Israël, en dépit de toutes les horreurs commises ? J'ai le sentiment, en vous lisant, que l'orientalisme, et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, vous expliquez qu'il bat son plein dans le monde global du 21e siècle, l'orientalisme n'est pas mort. J'ai l'impression que c'est cette explication qui pourrait répondre à la question. Est-ce que je me trompe ?
Non, alors le concept d'orientalisme a été élaboré dans la façon avec laquelle je l'utilise, hein, parce qu'il a une longue histoire, mais il a été élaboré par le grand critique et savant palestinien Edward Said, donc américain d'origine palestinienne.
Que vous citez souvent.
Voilà, dans un livre qui s'intitule précisément « L'orientalisme », paru à la fin des années 70. Donc, c'est un vieux concept. Et dans ce livre, Edward Said nous explique d'une façon très convaincante et argumentée que l'Occident a toujours eu besoin, pour se définir soi-même, pour de placer devant lui une sorte d'altérité négative, incarnée par le monde non occidental, et en particulier par le monde colonial. Et donc, l'orientalisme, la vision du monde orientaliste est fondée sur cette dichotomie qui voit d'un côté l'Occident comme incarnation de la civilisation et le monde colonial comme l'incarnation de la barbarie. D'un côté la raison, de l'autre côté le fanatisme. D'un côté l'état de droit, la démocratie, de l'autre côté le fondamentalisme et le progrès et l'arriération. Donc ça, c'est la vision du monde orientaliste. Mais c'est une vision du monde qui était dominante et qui, disons, fixait en quelque sorte l'horizon de nos représentations du monde à l'époque du colonialisme, à une époque pendant laquelle le colonialisme était défini comme la mission civilisatrice de l'Occident en dehors de ses frontières. Or, nous avons assisté après le 7 octobre à une réactivation spectaculaire de toute une série de tropes, de stéréotypes orientalistes au 21e siècle.
Et alors, lesquels par exemple ?
Pardon ?
Lesquels par exemple ? Quelles tropes orientalistes on a vu revenir ?
Alors, il m'est arrivé d'écouter des émissions sur France Culture, hein, juste après le 7 octobre. Mmh. On ne pouvait pas prononcer le mot 7 octobre sans dire l'attaque barbare. Et puis, on ne pouvait pas faire référence à, disons, au bombardement massif et à la guerre de destruction menée par Israël. Une guerre sans merci. Donc, vous voyez, et ce double langage est celui des commentaires de ces derniers jours sur l'attaque à Jaffa d'un côté, ou les drones du Hezbollah ou de l'Iran en Israël, les missiles d'un côté, et les bombardements massifs menés par Israël de l'autre. On nous a dit, bon, tout de suite, la démocratie, la seule démocratie du Proche-Orient a subi une attaque barbare. Le terrorisme, c'est les barbares qui agressent le monde civilisé. Tous les chefs d'État occidentaux ont été à Tel Aviv.
Et Enzo, est-ce que je me trompe si page 33, quand vous écrivez « À ce jour, le Hamas a tué de façon entre guillemets barbare », c'est-à-dire, c'est les citations, hein, près de 1200 Israéliens, dont 800 civils, Tsahal a tué, ouvrez les guillemets, intelligemment fermé les guillemets, 35 000 Palestiniens, dont un quart peut-être seraient des combattants du Hamas. C'est ça l'orientalisme, c'est de dire d'un côté il y a les barbares, de l'autre côté il y a les intelligents, et on inverse, c'est inversement proportionnel au nombre de victimes.
Oui, alors là, je dis 35 000 victimes.
Oui, c'est à l'époque du bouquin, vous le terminez en mai.
Au printemps, voilà.
Au printemps, voilà. Oui.
Mais il y a toute une littérature au 19e siècle sur les génocides. À l'époque, le mot génocide n'existait pas. Donc, sur les violences coloniales en Afrique, par exemple, et dans une bonne partie de l'Asie, qui consistait à, présenter ces génocides, c'est-à-dire l'écroulement démographique conséquent à la colonisation dans certains pays africains, au Congo par exemple, ou dans certains continents, dans l'Océanie, comme les conséquences inéluctables de la marche de la civilisation. Il y a des peuples qui disparaissent, mais la civilisation, c'est une sorte de sélection naturelle qui fait que la civilisation ne peut avancer que en sacrifiant les faibles. Alors, un discours analogue est fait aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des victimes palestiniennes, on les voit tous les jours, pour ceux qui veulent se renseigner et s'informer, on les voit tous les jours sur nos écrans de télévision. Mais c'est la conséquence inéluctable de la défense des principes et des grandes valeurs de la civilisation, la démocratie, la liberté, etc. Israël a le droit et le devoir de se défendre, et malheureusement, la défense d'Israël, qui est la défense de la civilisation, implique 45 000 morts victimes collatérales, implique la destruction des conditions matérielles d'existence d'un peuple dans la terre qu'il habite, Gaza qui est devenu un désert, disons, et donc les mêmes arguments sont mis en avant. Donc, cela, je pense, est une reformulation du discours orientaliste classique. Or, la chose qui est stupéfiante, c'est que ce discours nous est débité et reproposé au XXIe siècle, c'est-à-dire à une époque où l'Occident n'est plus le centre du monde, et sa prétention d'incarner à la fois le pouvoir et la morale est remise en question par la grande majorité de la population de la planète. Et donc cela ferait sourire si on n'était pas dans un contexte tragique.
Je pense qu'il faut faire à ce moment-là un petit détour par l'histoire du sionisme. Alors quand je dis petit détour, c'est parce que voilà, c'est une histoire tellement complexe, tellement riche, tellement longue que on va être obligé de voilà d'aller à grand trait. Vous rappelez page 45 que au départ du sionisme, il y a en fait deux courants, un courant de libération nationale qui serait plutôt de gauche, avec des communistes, avec des anarchistes et une mouvance colonialiste classique qui est celle qui a finalement remporté la mise. Là, je vais à grand trait. Hein. Je vais à grand trait. Et ce que j'ai compris dans votre livre, qui a vraiment été alors pour moi une révélation, c'est que ce qu'on appelle le peuple juif a été pendant très longtemps, pendant des siècles, le peuple rejeté, le peuple qui était victime de toutes les dégueulasseries. Et aujourd'hui, en réalité, c'est ce peuple-là que l'Occident revendique, et notamment l'extrême droite, revendique aujourd'hui comme l'un des leurs. Hein, il y a donc tout un mouvement autour de la terre d'Israël, du sionisme, qui est en train de s'opérer sous nos yeux et qui complexifie considérablement la donne.
Oui. Oui, alors il faut être conscient des contradictions qui ont marqué l'histoire du sionisme dès ses origines. Parce que le sionisme naît à la fin du XIXe siècle en Europe centrale, c'est Theodor Herzl, qui est considéré aujourd'hui comme le père spirituel d'Israël. Le sionisme, à l'origine, n'est que la version juive des nationalismes européens de l'époque. Et donc, c'est un nationalisme qui reproduit tous les clichés et la culture des nationalismes européens de l'époque, une certaine idée non seulement de la nation conçue dans un sens ethnique voire même racial, et une idée de supériorité des nations européennes à l'égard du monde colonial et du monde extra-européen. Alors, toute une série de traits constitutifs du sionisme qu'on retrouve dans tous les nationalismes de l'époque. Hein. On pourrait, pour revenir à l'analogie, comparer les écrits de Herzl avec les écrits de beaucoup de nationalistes allemands de l'époque, qui étaient sa principale source inspiratrice. On pourrait le comparer à Barès et Maurras, on trouverait beaucoup d'affinités. Mais le problème est que les Juifs européens à la fin du XIXe siècle étaient une minorité qui subissait l'antisémitisme en Europe centrale, en Europe orientale, on revient au pogrom, subissait les violences du régime des tsars, et l'antisémitisme était un des traits majeur de tous les nationalismes européens, sous des formes différentes. En Italie, l'antisémitisme était davantage catholique religieux que racial, comme en Autriche, par exemple. En France, l'antisémitisme était plutôt anti-républicain. Et dans ce contexte, le sionisme apparaissait aussi comme un mouvement de libération nationale porté par une minorité opprimée. Il était les deux choses à la fois. Et cela explique que dans cette galaxie, dans cette constellation sioniste, on trouve des anarchistes, par exemple. En France, Bernard Lazare, on trouve un marxiste comme Berborochov, et on trouve un nationaliste comme Jabotinsky qui admirait le fascisme italien et dont les partisans défilaient avec la chemise noire. Le sionisme était cela. Il y avait aussi ce qu'on appelait le sionisme culturel, de ceux qui voulaient reconstituer en Palestine un foyer national juif pour faire revivre la culture juive et aussi créer un centre de spiritualité juive, parce qu'il y avait beaucoup de religieux. Et cela va de Gershom Scholem, par exemple, une figure très connue. Et ce courant-là n'a jamais revendiqué la création d'un État juif en Palestine. Il disait, ce foyer national juif a vocation à exister, à se développer en Palestine, dont la plus harmonieuse coexistence, la plus fraternelle coexistence avec les musulmans. Il y avait différentes formes de sionisme. Bon, la naissance de l'État d'Israël a en quelque sorte sacralisé, disons, institutionnalisé le sionisme de Herzl, le sionisme politique, ce sionisme nationaliste et colonialiste. Et aujourd'hui, disons, Netanyahu est l'héritier, disons, des courants les plus radicaux du nationalisme, du colonialisme et du racisme sioniste.
Et sur l'autre facette dont je parlais, sur laquelle vous nous apprenez beaucoup de choses, sur le fait que le peuple juif soit aujourd'hui devenu l'allié des Occidentaux, alors que les Occidentaux pourchassé les Juifs pendant des siècles. Et c'est une évolution qui, alors là, pour vous, l'historien, qui est un concentré. C'est-à-dire, ça se passe en ce moment, ça se passe depuis quelques dizaines d'années, donc pour un historien, c'est rien, et ça s'accélère. Comment vous expliquez ce retournement de situation ?
Oui, c'est un phénomène absolument paradoxal, et je le dis en tant qu'Italien, je suis très frappé. Giorgia Meloni, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement italien, elle est la dirigeante d'un parti qui, jusqu'il y a 2 ans, était très fière de ses origines fascistes, qui revendiquait l'héritage du fascisme. Et en Italie, c'est bien le fascisme qui a persécuté les Juifs. C'est le régime fasciste qui a promulgué en 1938 une législation antisémite. Aujourd'hui, Giorgia Meloni dirige un gouvernement qui est un des plus intransigeants et des plus, fermes dans son soutien à Israël. Mais cette évolution est typique de toute l'extrême droite. Je dirais de toute l'extrême droite que j'appelle une extrême droite post-fasciste, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle internationale et aux États-Unis. Alors, moi, dans mon essai, j'utilise une formule, cette fois-ci je l'emprunte non plus à Saïd, mais à Du Bois, hein, ce grand historien noir, afro-américain, qui avait théorisé la color line, la ligne de la couleur, pour définir le racisme, et qui avait ensuite remis en cause aussi, disons, nuancé cette idée à la fin de sa vie en disant la ligne de la couleur ne suffit pas pour définir le racisme, c'est quelque chose de plus complexe. Alors, il se trouve que après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont franchi la ligne de la couleur. Mais ça, c'est un phénomène qui concerne beaucoup de minorités, de groupes. Les Italiens qui émigraient aux États-Unis à la fin du 19e siècle n'étaient pas perçus comme des blancs. Ils n'étaient pas blancs. Ils le sont devenus, ils ont franchi la ligne de la couleur plus tard. Et pour être acceptés en tant que blancs dans l'Amérique, qui était encore une Amérique WASP dans une large mesure, ils devaient afficher le racisme anti-noir. Nous ne sommes pas comme les Afro-Américains, nous ne sommes pas des Noirs. Et donc, cette mise à distance des groupes les plus opprimés et dominés leur permettait d'être, disons, de se rapprocher de ce qui était à l'époque la majorité raciale. Les Juifs ont franchi la ligne de la couleur et aujourd'hui, ils sont perçus comme des blancs. au sens, disons, symbolique du terme, parce que je vais voir quelle est la composition, la structure démographique et de la société israélienne. La moitié de la population est faite de juifs qui viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais Israël, en tant que tel, appartient au monde occidental. Et est un bastion du monde occidental, comme l'avait défini Herzl dans son essai à la fin du 19e siècle, au sein du Moyen-Orient. Israël a pu devenir un objet d'admiration, d'identification et de soutien économique, militaire, politique de la part d'une extrême droite qui a toujours été historiquement antisémite, parce que cette extrême droite a trouvé aujourd'hui d'autres cibles. Aujourd'hui, l'extrême droite qui défend l'identité nationale, qui défend des traditions, qui défend des valeurs, qui sont les valeurs des nations européennes, par exemple, et qui défend le principe de la civilisation aujourd'hui définie judéo-chrétienne, est une extrême droite qui a trouvé d'autres cibles. Son ennemi aujourd'hui, c'est l'islam, et son ennemi aujourd'hui, ce sont les migrants et les réfugiés qui viennent du monde musulman, et c'est les minorités au sein de l'Europe qui appartiennent à l'islam. Et donc il y a une sorte de dans ce cas l'analogie avec l'antisémitisme me semble fort pertinente pour l'extrême droite et xénophobe et islamophobe. L'islam est aujourd'hui le virus corrupteur au sein de la nation, et il joue le même rôle que pour les nationalistes d'il y a un siècle jouaient les juifs. C'est-à-dire le cancer qui ronge la nation de l'intérieur, parce qu'il y a des millions de citoyens européens qui sont musulmans ou qui sont d'origine post-coloniale. Donc voilà comment s'est opérée cette métamorphose.
Alors précisément, dans le chapitre « Raison d'État » qui démarre page 51, je vais lire le tout début, puisque là, on va parler du résultat effroyable de l'antisémitisme d'il y a un siècle, hein, qui amène évidemment Hitler, la guerre, etc. « La mémoire de l'Holocauste est rituellement honorée, écrivez-vous, dans les pays de l'Union européenne, comme une religion civile. » Alors, il faudra revenir sur ce concept qui vous est cher, une religion civile de la démocratie et des droits de l'homme. Aujourd'hui, elle, cette mémoire de l'Holocauste, tend à perdre sa vocation initiale pour être de plus en plus assignée à la défense d'Israël et à la lutte contre l'antisionisme, considéré comme une forme d'antisémitisme. Et là, vous allez citer ensuite deux personnalités allemandes, Merkel et comment s'appelle-t-il, Olaf Scholz, Scholz, pardon pour l'accent. J'aimerais que vous nous abordiez ce point-là, parce que il est évidemment crucial. La question de l'Holocauste, c'est aussi, c'est plus que central dans la question de la nation israélienne. Et donc, il faut être précis dès lors qu'on aborde ce sujet-là. La raison d'État.
Oui. Alors, la raison d'État a été mise en avant dans plusieurs discours publics, par Angela Merkel quand elle était la chancelière de la République fédérale allemande, et après le 7 octobre par Olaf Scholz, le chef du gouvernement allemand. Alors, j'ai été très frappé par l'insistance avec laquelle ils ont utilisé ce concept. Parce que tous ceux qui ont un minimum de familiarité avec la science politique et la philosophie politique savent que le concept de raison d'État est un concept qui a une signification et une histoire. Disons, l'idée de raison d'État remonte au XVIe siècle, au début, remonte à Machiavel, si vous voulez. Et la raison d'État, c'est quelque chose de très simple. La raison d'État, c'est un intérêt supérieur, d'une manière générale, c'est la sécurité nationale, supérieur aux lois, supérieur à l'état de droit.
Alors, c'est-à-dire, on peut abolir la peine de mort, écrivez-vous.
Pourquoi Guantanamo? Parce que Guantanamo,
n'est
pas possible à l'intérieur des frontières des États-Unis, parce que Guantanamo est incompatible avec l'état de droit américain. Mais Guantanamo existe, et au nom de la raison d'État, d'un intérêt supérieur de défense nationale. Et dans plusieurs pays qui ont aboli la peine de mort, la raison d'État justifie des assassinats mis en place par les services secrets, par exemple. C'est ça la raison d'État. Alors le fait que Olaf Scholz puisse dire « notre défense d'Israël est inconditionnelle au nom de la raison d'État », est une façon de révéler toutes les contradictions, les ambiguïtés et aussi, disons, la face cachée très moche, disons, qui est derrière cette façade d'intransigeance morale et politique. Je suis assez scandalisé par cela. Mais ce discours, alors, moi je veux très bien admettre, je n'ai aucune difficulté à admettre que l'Allemagne, en tant que démocratie qui est née des cendres du Troisième Reich, qui est l'héritière d'un passé très lourd à porter, et qui a fait un travail mémoriel considérable et à plusieurs égards admirable. Je le dis en tant qu'Italien. En Allemagne, il y a un mémorial de l'Holocauste qui trône au cœur de Berlin et qui rappelle.
Il est magnifique.
Et qui rappelle les crimes nazis, c'est-à-dire, et qui est le symbole d'une conscience historique qui a intégré l'Holocauste. On ne peut pas se dire allemand sans reconnaître que dans l'histoire de l'Allemagne, il y a aussi les crimes nazis. Je voudrais qu'il y ait la même chose en Italie, dans la reconnaissance des crimes du fascisme, dans la reconnaissance du génocide perpétré par le fascisme italien en Éthiopie en 1935, etc. Ça n'existe pas. Donc, ce travail admirable, aujourd'hui, est en train d'être mis à mal, voire détruit par le soutien que, au nom de la mémoire de l'Holocauste, Israël apporte à la politique génocidaire d'Israël. Et c'est quelque chose de lamentable et de très grave. Alors, je disais tout à l'heure, les post-fascistes qui sont les amis les plus fidèles et fiables et enthousiastes de Netanyahou et de, sans doute parce que il y a des fascistes au gouvernement, dans le gouvernement de Netanyahou, et ils ressentent beaucoup d'affinités. Mais c'est une façon pour eux de dire, mais nous sommes respectables, vous pouvez nous faire confiance. L'extrême droite en Europe a besoin d'être perçue comme une force de gouvernement légitime, et son soutien indéfectible à Israël, c'est une manière de se légitimer comme force de gouvernement en Europe. Mais pour revenir à l'Allemagne, disons, l'Allemagne, grâce à son travail mémoriel, grâce à cette intégration de la mémoire de la Shoah, a changé son code de la nationalité, a changé sa conception de la citoyenneté. L'Allemagne aujourd'hui se conçoit comme une communauté politique et non plus comme une nation au sens ethnique du terme. C'est un pas en avant gigantesque. C'est un tournant démocratique majeur qui est pour lequel et dans lequel la mémoire de la Shoah a joué un rôle très important. C'est l'achèvement d'une bataille que Jürgen Habermas, le philosophe allemand, a menée depuis les années 80 et qui a donné des résultats. Aujourd'hui, il y a des citoyens allemands qui sont d'origine non seulement espagnole ou italienne, turque aussi, palestinienne, d'origine postcoloniale. Aujourd'hui, quand il y a la Coupe du monde de football, les Allemands sont tous des fans de leur équipe, une équipe dans laquelle il y a des Noirs, il y a des noms à consonance espagnole ou turque ou africaine. Et ça, c'est un énorme progrès. C'est un changement historique. Mais cela fait qu'aujourd'hui, un Palestinien peut devenir citoyen allemand. Et l'Allemagne est le pays européen avec la plus grande communauté palestinienne. Or, les déclarations, la raison d'État allemande fait qu'un Palestinien, pour devenir citoyen allemand, doit soutenir l'État d'Israël. Vous comprenez l'effet pervers de cette politique qui se veut une politique vertueuse. Et en l'occurrence, au nom de la mémoire de la Shoah, on est en train de légitimer un nouveau génocide. Mais cela va au-delà de l'Allemagne, parce que si dénoncer un génocide est une forme d'antisémitisme, alors il faut en tirer la conclusion que l'antisémitisme n'est pas si mauvais que ça, que l'antisémitisme a aussi quelques vertus.
C'est exactement ce que vous écrivez, page 67, mais alors c'est mot pour mot. Si s'opposer à ce massacre, écrivez-vous, signifie être antisémite, beaucoup vont penser que l'antisémitisme n'est pas que mauvais.
Oui. Non seulement cela, si la mémoire de la Shoah cautionne un génocide aujourd'hui, cela veut dire que cette mémoire n'est pas si vertueuse que cela. Cela veut dire qu'on peut se passer de cette mémoire, qu'il vaudrait mieux s'en passer. Et si la mémoire de la Shoah sert à justifier la politique génocidaire d'Israël à Gaza, beaucoup de monde commencera à penser que l'Holocauste est un mythe, que les chambres à gaz n'ont pas existé, qu'elles ont été inventées pour défendre certains intérêts, et notamment les intérêts d'Israël, et que les chambres à gaz sont toujours mises en avant pour expliquer qu'il y a une sorte d'innocence ontologique d'Israël qui peut faire tout ce qu'il veut parce que il parle et agit au nom des victimes de l'Holocauste. Et donc, l'effet pervers de cette politique consiste paradoxalement, disons, à légitimer le négationnisme. Vous voyez, je suis très inquiet pour cela, parce que ceux qui manifestent aujourd'hui contre l'antisémitisme en ignorant ce qui se passe, en essayant de se cacher les yeux devant ce qui se passe à Gaza, ou en cautionnant Israël, sont ceux qui préparent les conditions pour une renaissance de l'antisémitisme et créent des conditions dans lesquelles il sera de plus en plus difficile de lutter contre l'antisémitisme.
Et alors ce que vous dites là est évidemment vertigineux, mais j'aimerais quand même, tout à l'heure, j'ai dit que votre livre était parfois déroutant, parce que ce que vous appeliez tout à l'heure la raison d'État, en expliquant une forme de culpabilité d'État, notamment de l'Allemagne et finalement de l'Occident, par rapport à ce qui a été fait aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je rappelle que c'est l'Occident qui l'a fait aux Juifs, c'est pas les Palestiniens, par exemple. On peut pas quand même, enfin, comment dirais-je? C'est difficile de ne pas y penser chaque jour, quand même, ce que l'Occident a pu faire au peuple juif. Vous ne pensez pas à ça?
Écoutez, je bien sûr que on ne peut pas ignorer cela. Et je crois que cela explique pourquoi tant de Juifs manifestent contre la guerre. Tant des Juifs sont indignés par la politique israélienne et descendent dans la rue pour dire non, Israël ne peut pas faire ce qu'il fait à mon
nom. En notre nom, oui.
À notre nom, au nom des Juifs.
Ah oui.
C'est une façon, un enrôlement abusif qu'il dénonce. Et alors, je voudrais souligner que, par exemple, aux États-Unis, dans les mouvements contre la guerre, dans les campus, la composante juive du mouvement contre la guerre est très significative. Il ne s'agit pas que de quelques personnalités qui n'aiment pas le sionisme, qui sont antisionistes ou qui n'aiment pas Israël. Il s'agit d'une présence organisée d'associations, d'un véritable mouvement juif contre la guerre qui implique beaucoup d'étudiants et aussi beaucoup de professeurs dans les campus. Le principal soutien.
Pardonnez-moi, Enzo, je voudrais juste préciser à ceux qui nous ont rejoints que d'où vous parlez. Hein, vous parlez de l'État de New York et vous enseignez à l'université de Cornell. Et donc vous savez de quoi vous parlez. Hein, voilà, c'était juste pour préciser. Vous êtes au cœur de tout ça. Voilà, on vous écoute.
Oui, alors je soulignais l'importance de la présence juive dans le mouvement contre la guerre et je tenais à souligner que les principaux soutiens à Israël aux États-Unis, le principal soutien à Israël aux États-Unis ne vient pas de la communauté juive, vient des fondamentalistes chrétiens, vient des évangélistes qui sont trumpistes et qui sont la principale source de financement des colonies israéliennes en Cisjordanie. Et je tiens aussi à souligner que dans les campements, dans les campus universitaires, les campements créés par le mouvement anti-guerre, les relations qui existent entre juifs et musulmans, et parfois entre israéliens, étudiants israéliens et étudiants arabes, sont des relations très fraternelles. S'il y a un lieu dans lequel, cette fraternité s'exprime, c'est bien le mouvement contre la guerre. Donc, les reportages qu'on a pu voir dans certaines chaînes de télé, les articles qu'on a pu écrire ou lire dans certains organes de presse selon lesquels ce mouvement serait antisémite et empêcherait aux Juifs d'entrer dans les campus, c'est de mensonges, mais des mensonges qui ne sont pas dû à un manque d'information ou à, disons, une connaissance approximative. C'est des mensonges, je pense, conscients. Parce que quiconque ait assisté à ces manifestations contre la guerre ou quiconque ait pu accéder à un campus universitaire dans lequel il y avait des manifestations ou des campements contre la guerre a pu voir ça. Disons, c'était quelque chose d'absolument évident.
Vous avez un autre chapitre très important qui est autour, je vais essayer de le montrer, voilà, violence, terrorisme, résistance. En fait, tout est important dans votre bouquin, et votre bouquin, il est court, hein, il fait 125 pages, je l'ai lu, ce matin, et il se lit bien. Alors, La question du terrorisme, vous l'avez un peu esquissé en début d'entretien, et je pense que c'est important d'y revenir. Les terrorismes des uns sont les héros des autres, pour le dire rapidement. Qu'est-ce que vous voulez nous rappeler, puisque votre ouvrage, c'est Gaza devant l'histoire, quand vous revenez sur cette question-là, sur la question du terrorisme, sur la question de la violence, sur la question de la résistance?
Oui. Je disais tout à l'heure que la violence des opprimés contre les dominants est légitime, et la légitimité de ce recours à la violence est reconnue par le droit international. Cela ne veut pas dire que toute forme de violence soit légitime et que le terrorisme soit une pratique légitime ou même efficace. Alors, une fois qu'on a reconnu ces grands principes, après, leur mise en œuvre relève de la stratégie et de la tactique. Et là, les clivages, les différences, les débats s'ouvrent. Moi, je rappelle dans mon essai que l'accusation de terrorisme a toujours été adressée au mouvement de libération nationale qui prenait les armes pour se battre pour leur indépendance ou pour leur libération, et que l'accusation de terrorisme était très courante dans la propagande fasciste et nazie contre la résistance. Je rappelle que des pratiques qu'on peut très bien qualifier de terroristes ont été celles du FLN lors de la guerre d'Algérie, ont été celles de l'ANC en Afrique du Sud lors du combat, lorsque l'ANC était dirigée par Nelson Mandela contre l'apartheid sud-africain, que des pratiques terroristes ont été celles des Vietnamiens contre le régime, disons, allié des Américains, et contre et lors de la guerre du Vietnam contre l'armée américaine. Et on pourrait donner bien d'autres exemples. Je rappelle que des pratiques terroristes reconnues et revendiquées comme telles ont été mises en œuvre par la résistance en Europe sous l'occupation nazie. Et je cite même toute une série de documents qui appartiennent à l'histoire de la résistance italienne, que je connais un peu mieux que d'autres. À un moment donné, le Parti communiste, qui est une des...
Les gapistes, c'est ça ? Gap,
oui,
c'est ça ?
Les gaps.
Oui.
Partigiana, non ? Le Parti communiste, qui est la force principale de la résistance, à un moment donné fait circuler un document dans lequel il dit « Arrêtez de mettre et de poser des bombes dans les restaurants et les cinémas parce que ça va tuer des civils et ça va retourner la population contre nos groupes qui mènent la lutte armée. » Donc il faut se fixer, il faut concentrer les actions violentes contre les militaires. Alors, je cite le très beau film de Robert Guédiguian
sur le groupe Manoukian
Rouge, dans laquelle il montre comment cette question est discutée au sein du groupe Manoukian. Et c'est une question qui a toujours fait débat et qui a toujours fait l'objet de...
Alors, la preuve...
Mais c'est l'histoire. Alors, je termine sur ce point. Je cite aussi le film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, qui est quand même, qui a été canonisé comme un des grands films
à Venise.
De la culture anticoloniale. Et ce film montre dans une scène cruciale des femmes algériennes qui se déguisent en françaises et qui vont poser des bombes dans des locaux, des bars fréquentés par les Français. Alors, on peut discuter de la légitimité, de l'efficacité de ces moyens terroristes, de cette violence et de ces moyens d'action par un mouvement de libération nationale, ce qu'on ne peut pas contester, c'est le fait que ces formes de violence appartiennent à l'histoire de ces mouvements. Et les Palestiniens inscrivent leur combat dans cette longue histoire. Et donc le débat qui existe aujourd'hui au sein de la résistance palestinienne est exactement le même qui a toujours marqué l'histoire de ces mouvements de libération nationale.
Alors vous dites ça fait débat, et d'ailleurs ça fait débat dans le chat. Sans Severina nous disait tout à l'heure, vous contestez un petit peu le terme de résistance concernant notamment le Hamas. Peut-on parler de résistance quand leurs actions entraînent la mort de tant de Palestiniens? Donc ça, c'est la question de l'efficacité que vous avez soulevée, plus la violence gratuite entre guillemets, les viols par exemple. La résistance en France n'a pas emprunté ces méthodes. Vous parlez de ça dans votre livre, et notamment les viols commis comme acte de guerre par des armées ou par des organisations qui ne sont pas des organisations d'État. Mais sur ce plan-là, qui revient là, à l'instant même dans le chat, sur certaines méthodes employées, qu'est-ce que vous répondriez à des gens qui sont de bonne foi, qui sont là au poste, on réfléchit ensemble.
J'aborde la question dans mon essai. Je donne toute une série d'exemples. Je donne un exemple qui est, comment dire, quelque chose de massif et de l'arrivée de l'armée rouge à Berlin signifie des dizaines de milliers de femmes allemandes violées non pas à cause de débordements, à cause du chaos, et de violées avec le consentement et l'approbation du leadership de l'armée, des états-majors de l'armée rouge. C'est quelque chose d'horrible. C'est une des pages les plus sombres de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale qu'il faut connaître, qu'on a étudié, qu'il faut condamner sans la moindre hésitation. Cela n'enlève rien à la légitimité du combat de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Il y a eu des enquêtes menées par des agences de l'ONU qui n'ont pas pu parvenir à des conclusions sûres. Le résultat de ces enquêtes, c'est que très probablement il y a eu des viols perpétrés par le Hamas le 7 octobre, et très probablement il y a eu des viols perpétrés par l'armée israélienne à l'égard des Palestiniens et des Palestiniennes arrêtées par la suite. C'est des conclusions vraisemblables, il n'y a pas de preuves, entre autres parce que ces enquêtes n'ont pas pu être menées d'une façon convenable à cause de l'interdit posé par l'armée israélienne. Mais on peut penser que très probablement il y a eu des viols. Ces viols, il faut les condamner, il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne s'agit pas, absolument pas, de relativiser minimiser ou de justifier les pires formes de violence et d'oppression subies par les Palestiniens à Gaza ne justifient pas l'assassinat de civils israéliens ou le viol des femmes israéliennes. Sur cela, je pense que personne ne peut avoir des doutes et des hésitations. Mais cela ne remet pas en cause la légitimité d'une action palestinienne qui fait recours aux armes pour, disons, contre une force d'occupation. C'est ça que je veux affirmer d'une façon très simple. Alors, est-ce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière le 7 octobre ? Alors, je termine sur ce point.
Allez-y.
Beaucoup d'atrocités dénoncées et qui ont fait la une de la presse ou la nouvelle d'ouverture. Beaucoup de ces atrocités se sont révélées fausses, inventées par les services de propagande israéliens, ont été démenties par la suite. Et on a même analysé le mécanisme de fabrication de ces fausses nouvelles. Dans mon essai, il y a un chapitre qui s'intitule « Fausses nouvelles sur la guerre » qui rappelle, qui évoque Marc Bloch, lequel étudiait ce phénomène étrange. Pendant l'été 1914, la presse allemande est remplie d'articles et de reportages sur les atrocités perpétrées par les Belges contre les Allemands. Alors ces nouvelles étaient des nouvelles fausses, mais tout le monde y croyait. Parce que dans le contexte de l'époque, ce genre de nouvelles apparaissait crédible. Il s'est passé quelque chose de similaire au sujet du 7 octobre et du Hamas. L'histoire des femmes enceintes éventrées, l'histoire des bébés jetés dans les fours, etc. Tout cela, c'est des mensonges fabriqués par la propagande israélienne. Il y a eu des violences, il y a eu sans doute des viols, il faut le condamner sans la moindre réserve, mais cela ne remet pas en cause la légitimité du recours aux armes par les Palestiniens. Et pourquoi les Palestiniens ont fait recours aux armes ? Derrière le 7 octobre, il y a un récit qui nous dit « il y a la haine ». Antisémites qui animent le Hamas, etc. Mais il y a un fait derrière le 7 octobre qu'il faudrait prendre en considération, c'est le naufrage complet des accords d'Oslo, le naufrage complet de toutes les tentatives de trouver une solution pacifique à ce conflit, le naufrage complet de toutes les stratégies palestiniennes qui se fondaient sur l'abandon de la lutte armée pour participer à des négociations de paix et à une solution pacifique, un naufrage qui a été consciemment, et je dirais même planifié par les gouvernements israéliens depuis 30 ans. Et depuis la signature des accords d'Oslo, les colonies n'ont fait qu'augmenter. Il y a aujourd'hui 700 000 colons israéliens en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Les accords d'Oslo visaient à être remplacés par ce qu'on appelait les accords d'Abraham qui excluaient les Palestiniens. Alors, le 7 octobre est la réponse palestinienne à cet échec, à ce naufrage. Si on oublie cela, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer en Palestine aujourd'hui.
Enzo, je vais avoir le plaisir de relire un passage de votre livre, mais qui est un plaisir. Au tout début, je vous ai dit, votre livre est dérangeant au sens premier du terme, c'est-à-dire, à la fin du passage que je vais lire, moi, je me suis arrêté en me disant, qu'est-ce qu'il a voulu dire, cet historien ? Après l'attaque du Hamas, écrivez-vous, page 84, les Palestiniens se sont révélés capables de passer à l'offensive et pas seulement de subir. On peut le regretter, vous venez de le faire très, très clairement. Quand on regarde le déroulement des événements depuis l'Europe ou les États-Unis, mais une partie de l'opinion palestinienne s'y réjouit du massacre du 7 octobre. Pour une fois, l'effroi, l'impuissance, la peur, l'humiliation avaient changé de camp. Là, alors, comment vous pourriez traduire, comment on peut traduire ce terme là, allemand, Schadenfreude?
Schadenfreude, c'est se réjouir des malheurs des autres.
La Schadenfreude est aussi un sentiment humain. Et là, c'est là où je me suis arrêté, hein. Comme le timide sourire qui s'esquissait sur le visage des déportés à Auschwitz lorsqu'ils apprenaient la nouvelle du bombardement des villes allemandes. Donc là, vous faites une analogie, et pas n'importe laquelle. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Vous voulez nous sortir de l'orientalisme? J'ai bien compris. Si j'ai bien compris.
Encore une fois, je ne dis pas que Gaza, c'est Auschwitz.
Non, bien sûr.
C'est pas
Bien
ça
sûr.
que je veux dire.
Non, non, bien sûr.
Mais je comprends une attitude, une réaction, un réflexe qui me paraît humainement compréhensible, qui est celui des opprimés face au malheur qui, pour une fois, frappe leurs oppresseurs. J'ouvre mon essai en évoquant les bombardements alliés sur les villes allemandes.
Dresde,
600 000 civils allemands qui ont péri sous les bombes. Il y a eu des millions de réfugiés, des villes détruites. Les souffrances allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient incontestables.
Je mets le passage en question, comme ça les gens peuvent lire.
Cela me paraît incontestable, mais je dis aussi que cette souffrance était auto-censurée parce que les Allemands savaient qu'au nom de l'Allemagne, le Troisième Reich était en train de perpétrer des crimes bien pires que ceux que les Allemands subissaient. Donc, je peux très bien comprendre la souffrance terrible des familles israéliennes qui ont perdu des proches lors du 7 octobre ou qui ont des otages sous les tunnels de Gaza. C'est une souffrance terrible qui suscite de la sympathie, de l'empathie et qui est parfaitement compréhensible. Le problème n'est pas là. Comme Primo Levi ne pouvait s'empêcher d'esquisser un sourire à Auschwitz lorsque la nouvelle arrivait que les Allemands étaient en train de payer pour ce que l'Allemagne nazie était en train de faire, et que pour une fois, disons, les malheureux étaient de l'autre côté. C'est exactement la même réaction psychologique qui a été celle des Palestiniens. Alors, beaucoup de même Al Jazeera nous a dit qu'en Cisjordanie, après le 7 octobre, on fêtait l'attaque du Hamas, et que le Hamas, après le 7 octobre, est devenu plus populaire qui ne l'était auparavant. Je pense que cela est un phénomène qu'il faut comprendre, parce que une guerre n'est pas que un fait militaire ou que un fait qu'on peut analyser sur un plan géopolitique et stratégique. Une guerre est la souffrance de millions de personnes. Une guerre est aussi quelque chose qui affecte les émotions, et cela a des implications politiques. Je crois que il faut en prendre acte, et c'est quelque chose que les historiens ont compris déjà depuis un certain temps. Interpréter le passé signifie aussi essayer, faire un effort d'empathie, et même certains disent de hétéropathie critique, c'est-à-dire essayer de se mettre la tête et dans le cœur des acteurs de l'histoire, quels qu'ils soient, de tous les côtés, et cette dimension émotionnelle et subjective de l'histoire fait partie de l'interprétation du passé. Donc, faire ce constat ne signifie certes pas se réjouir des otages qui ont été capturés par le Hamas, ne signifie certes pas se réjouir des victimes israéliennes du 7 octobre, mais il faut, disons, contextualiser cette dimension émotionnelle pour essayer de la comprendre.
C'est un peu ce que vous faites tout le long du livre, et notamment page 89. Le terrorisme du Hamas, écrivez-vous, n'est que la doublure dialectique du terrorisme d'État israélien. Le terrorisme n'est jamais beau ou réjouissant, mais celui des opprimés est engendré par celui de leurs oppresseurs. Alors c'est vrai que ça, ce n'est pas des choses qu'on entend tous les jours. On est bien d'accord, Enzo. Et vous revenez...
Mais je fais un constat, Alors, on parle toujours des centaines d'otages israéliens qui aujourd'hui se sont réduits à un nombre bien moindre. On ne parle jamais des milliers de Palestiniens qui ont été arrêtés après le 7 octobre et qui sont aujourd'hui en détention administrative dans les prisons israéliennes. Et alors, ils ne sont pas des otages au sens juridique du terme, mais c'est exactement la même chose. C'est exactement de la même chose. Il y a Tzahal qui débarque dans un village palestinien de Cisjordanie pour chercher un membre du Hamas. Il ne le trouve pas et ils vont arrêter son frère, son cousin et sa sœur. Et qui sont tenus en prison pendant des mois, voire des années sans procès. Donc, c'est ça la réalité. Donc, les deux poids, deux mesures, l'inégalité avec laquelle les médias couvrent cet événement doit être quand même relevé.
Les médias font partie de vos travaux, en tout cas de votre essai. Hein, vous en parlez souvent. Là, je parle des médias occidentaux pour en dénoncer finalement le côté un petit peu univoque. Et là, je m'adresse à l'historien. Finalement, les médias de masse, c'est assez récent. Hein, c'est la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution tout de même dans la force, dans l'influence de ces médias de masse aujourd'hui par rapport aux premiers journaux dans les années, dans le 19e siècle, on va dire, ou la radio, la télévision dans le 20e siècle. Est-ce que vous pensez que l'accélération de l'information, etc., nous empêche considérablement de réfléchir ou pas? Est-ce que cette évolution joue sur nos esprits?
Alors, je pense que la réponse ne peut pas être simple. On ne peut pas répondre oui ou non. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'information est plus…
orientée.
est plus large, est plus détaillée, plus approfondie, incontestablement. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes mieux informés par les médias que ne l'étaient nos ancêtres il y a un siècle? Je suis pas sûr de cela. On dit que le pluralisme, c'est la possibilité d'allumer la télévision ou un écran d'ordinateur et de choisir entre des centaines de sites et d'organes d'information différents. Mais puis, on s'aperçoit que le niveau de réification marchande de l'espace public est tel que, en réalité, cette information est largement manipulée ou orientée par ceux qui détiennent le pouvoir. Or, ma réponse serait que, d'une manière générale, non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux ou plus informés que nos ancêtres il y a un siècle. Aujourd'hui, nous pouvons, si nous le souhaitons, si nous le voulons, nous pouvons faire un bon usage des médias et accéder à une information beaucoup plus complète, beaucoup plus approfondie et beaucoup plus critique que n'était le cas il y a un siècle. Parce que si on veut, on peut, par exemple, regarder ou écouter Au Poste et avoir et se former un avis sur ce qui se passe dans le monde, qui est un avis critique. Et Au Poste, il y a d'autres sites d'information ou d'autres qui font un travail similaire dans beaucoup de pays. Si je ne regarde que CNews, par exemple, évidemment, j'ai ma vision du monde est formatée d'une certaine manière. Mais si je ne lis pas que, ne regarde pas que CNews, mais je regarde aussi, je ne sais pas, le média, ou aux États-Unis, non seulement Fox News, mais aussi CNN. Et si je regarde aussi Al Jazeera, bon, je peux me faire une opinion beaucoup plus, disons, nuancée.
Alors, c'est
complète de ce que de la guerre à Gaza.
Alors, bon, là je vous emmène sur des terrains que vous n'évoquez pas dans le livre, donc vous pouvez bien passer à autre chose. Mais je pensais en vous écoutant notamment aux Palestiniens, aux opprimés, hein, puisque pour reprendre votre terme, si on fait une analogie avec la résistance française par exemple, c'était difficile pour elle de faire des journaux clandestins, de les imprimer. Enfin, c'était des risques, etc. Là où aujourd'hui les Palestiniens peuvent documenter en quasi direct ce qui leur est fait, et pourtant on n'a pas l'impression que ça modifie grand-chose dans la conscience mondiale, si vous voulez. Alors que il y a un rééquilibrage qui me semble être plus qui peut se faire de manière plus rapide, mais pour autant est-ce qu'il change grand-chose? Mais vous pouvez me dire, vous êtes bien gentil au poste, mais c'est pas mon sujet, hein. Vous pouvez me le dire, c'est juste une réflexion comme ça.
Alors, quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, c'est pourquoi Israël a tué tant de journalistes à Gaza. Ça, c'est quelque chose d'historiquement inédit. Des centaines de journalistes tués. Alors, à ma connaissance, cela ne est sans précédent. En une année de guerre, dans un... On ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale qui se déroule sur deux continents ou plus. On parle d'une guerre qui se déroule sur un territoire qui est une poche de quelques dizaines de kilomètres. Donc c'est quelque chose d'effrayant. Et s'il y a un tel acharnement pour tuer les journalistes, essentiellement les journalistes palestiniens de Gaza, il y a une raison. Ça veut dire que leur information dérange. Alors, moi, je serais peut-être un peu plus nuancé que, au sens, je comprends ce que vous dites, mais je pense que peut-être les choses peuvent être vues aussi sous un autre angle. D'abord,
c'est ce que vous appelez l'hétéro, comment vous avez dit tout à l'heure, l'hétéro,
l'hétéropathie.
Mais là, c'est plutôt de l'hétéro-antipathie, visiblement, vous allez me balancer. Mais c'est pas grave. Non, je rigole.
Je disais,
je blague.
Pardon pour utiliser ces termes tordus et techniques, mais je veux dire, si on veut comprendre la Shoah, il faut aussi essayer d'entrer dans la tête des soldats, des policiers, des SS, des Einsatzgruppen. Et cela n'est certes pas une empathie qui fait qu'on se sent proche.
Je comprends. Non, c'est très bien. Je
comprends, mais c'est un travail d'hétéropathie, c'est-à-dire une tentative de compréhension de l'univers mental de quelqu'un qui agit et dont les agissements nous condamnons sans la moindre réserve.
C'est la meilleure définition des sciences sociales que vous venez de donner là.
Donc là, c'est trop facile parce qu'on a fait la même chose. Vis-à-vis du Hamas. On a dit, bon, le SS, il faut le condamner et essayer d'expliquer, de comprendre. C'est déjà une forme de justification. Le Hamas, c'est des monstres. C'est des fanatiques, c'est le diable, point. C'est fini. Il n'y a plus de discussion possible. Mais pour revenir à la question des médias, je pense d'abord que CNN et Fox News feraient rire des millions et de millions de spectateurs dans ce qu'on appelle le Sud global. Leur information est irrecevable dans la plus large partie de la planète. Et il ne faut pas non plus penser que ces organes d'information sont normatifs ou sont suivis par l'opinion publique. L'opinion publique peut être manipulée, mais les gens ne sont pas des imbéciles. Donc, je pense que l'opinion publique réelle n'est pas celle qui apparaît au miroir des grandes chaînes d'information. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les sondages d'opinion nous disent que, par exemple, que les Américains sont très divisés sur la question palestinienne. Et en Europe aussi, on ne comprendrait pas pourquoi CNews nous présentait Zemmour comme déjà élu au moment de la campagne électorale, et puis ça a été un échec complet, sa candidature. Donc, les orientations de l'opinion publique, les grands médias ne sont pas le miroir exact de l'opinion publique.
Est-ce qu'il vous reste encore 5-10 minutes pour que je vous remonte des questions du chat? Est-ce que c'est possible?
Oui.
Ah, super. En tant qu'historien, vous demande cher Adeline, en tant qu'historien, que pensez-vous du rôle, ou plutôt du non-rôle, de la France actuelle face à Israël?
Je pense que la prétention de la France de se présenter rituellement comme le pays des droits de l'homme devient risible aux yeux d'une large partie de la planète à partir du moment où la France ne rate aucune occasion pour afficher son soutien à Israël. Je pense que c'est quelque chose d'assez évident. Alors, la rhétorique qui est mise en avant par les États-Unis, c'est encore pire, je veux dire. Blinken qui nous répète depuis des mois que nous sommes tout près des accords, que nous sommes presque arrivés à des accords de paix, etc. Le cessez-le-feu est imminent, etc. Et systématiquement, Netanyahou qui tient son discours à l'ONU pour dire le contraire de ce que disent les Français et les Américains, et l'armée qui tue les assassinats ciblés de tous les interlocuteurs possibles dans une négociation de paix. Alors ça montre que il y a une rhétorique et puis il y a une impuissance diplomatique qui est en quelque sorte recherchée.
Il y a aussi une autre question à propos de l'Allemagne, quand nous parlions tout à l'heure de l'Allemagne, en disant que les manifestants, vous en parlez dans votre livre d'ailleurs, les manifestants pro-palestiniens sont littéralement arrêtés là-bas, y compris des enfants pour avoir brandi des drapeaux palestiniens. Et Twisted, qui fait cette remarque, aborde juste derrière une question qui serait celle de la dépolitisation des haines.
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'appeler une dépolitisation des haines. En Allemagne, on est arrivé au point d'arriver beaucoup de manifestants juifs, de juifs qui manifestaient contre la guerre et qui ont été arrêtés et accusés d'antisémitisme. Non, il y a ce paradoxe, mais cette répression de la dissidence, c'est-à-dire de la solidarité avec la Palestine, ne peut pas être qualifié de une tentative de dépolitiser la question palestinienne. C'est une forme de politisation de la crise de Gaza. La dimension politique qui, je pense, qui est la plus difficile à gérer par les pouvoirs, les médias suivent, c'est le fait que, disons, il y a eu une réaction très ferme à l'égard de l'invasion russe de l'Ukraine, d'un côté, avec un soutien massif à l'Ukraine, qu'on peut discuter pour ses conséquences et pour est-ce que c'est la meilleure façon de trouver une solution. Donc, ça, on peut le discuter, mais comment dire, il y a eu une position très ferme de soutien à l'Ukraine, une nation souveraine agressée par la Russie. Israël est en train de piétiner depuis des décennies le droit et de transgresser toutes les prescriptions et les règles fixées par le droit international et bon, l'establishment du monde occidental accepte tout cela sans rien dire. Au contraire, disons, cette indignation sélective et ce double standard, comme on dit, je pense que c'est un des principaux problèmes que l'Occident doit gérer aujourd'hui.
Avant de vous poser la question rituelle de poste, je voulais vraiment vous remercier Enzo Traverso pour votre livre Gaza devant l'histoire qui m'a passionné ce matin. Je pense que notre conversation, était également passionnant et je voulais vous remercier, c'est tout bête, mais de parler aussi brillamment le français, même si de temps en temps quand vous donniez des petits mots en italien, moi, ça, je frétille toujours, je suis incapable de parler italien, mais voilà, je voulais saluer voilà, votre côté polyglotte qui est remarquable. Voilà, si, c'est important. Alors, on a une question rituelle ici. Qu'est-ce que nous avons fait, Enzo Traverso, pendant presque 2 heures au poste?
Nous avons partagé une réflexion sur quelque chose de tragique qui affecte tout le monde. Et alors, je pense que vous m'avez donné l'occasion de dire ce qui est une de mes convictions profondes. Les historiens exercent un métier qui est celui d'écrire l'histoire du passé. Ils le font avec leurs capacités, leurs outils, leurs compétences, mais les historiens n'ont pas le monopole de l'histoire. L'histoire appartient à tout le monde. Et la seule chose que nous pouvons essayer de faire, c'est de nous approcher de ces préoccupations communes avec, disons, un regard, en introduisant une perspective qui est une perspective historique, mais nous n'avons certes pas de solution à offrir nous partageons, disons, toute une série d'interrogations, de préoccupations, pour revenir au sentiment, disons, de souffrance et de jubilation quand l'occasion se présente. Votre émission nous aide à mettre en œuvre ce partage, disons.
Eh bien, merci beaucoup Enzo Traverso. Quelle heure est-il pour vous? C'est 6 heures de moins, il est 14 heures, c'est ça?
Il est quasiment 14 heures, oui.
Quasiment 14 heures. Comment on fait avec les élections américaines? On les suit ou c'est du spectacle? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Les élections américaines, vous voyez, bien sûr qu'on les suit, elles sont très importantes, elles peuvent avoir des conséquences tout à fait considérables. Et comme tout le monde, à la fois, j'ai éprouvé un certain soulagement lorsque Kamala Harris a pris la place de Joe Biden, parce que la convention démocrate était déjà annoncée comme une espèce de funérailles, de cérémonie funèbre qui actait déjà la défaite démocrate. Bon, avec l'arrivée de Kamala Harris, on s'est dit, voilà, peut-être on a encore quelque chance de remonter la pente, d'empêcher un retour de Trump. J'ai été terriblement déçu par Kamala Harris. Kamala Harris, dans cette kermesse qui a été la convention démocrate, n'a pas voulu donner la parole à un Palestinien ou à une Palestinienne. Il y en a qui sont élus au Congrès, mais une minute pour entendre la voix d'un Palestinien, non, ça n'a pas été possible. Dans un entretien qu'elle a eu avec CNN peu après la convention, elle a répété que le soutien américain à Israël est inconditionnel et indéfectible. Donc, je pense que toutes les prémices existent pour que les États-Unis poursuivent leur politique de soutien à un génocide qui est mis en œuvre aujourd'hui en Palestine. Et la chose que je n'arrive pas à comprendre, franchement, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est l'aveuglement du Parti démocrate devant, disons, une situation objective qui est pourtant tous les jours soulignée par les médias. Les élections américaines ne se jouent pas, disons, au niveau de, comment dire, des grands masses électorales. Kamala Harris peut très bien perdre les élections avec 5 millions de voix de plus que Donald Trump. Les élections américaines vont se jouer dans 4 ou 5 États maximum, et peut-être ils vont se jouer dans un État finalement, ou dans deux États. Et il y a des États dans lesquels le vote arabe est important, peut faire basculer le résultat électoral dans l'État et donc par ricochet, par un effet domino à l'échelle des États-Unis. Et cet État, c'est le Michigan. Hein, c'est le Michigan, parce que si on pense qu'est-ce que c'est que le vote palestinien ou le vote arabe à l'échelle des États-Unis, c'est bien peu de choses. Rien en proportion par rapport, que sais-je, au vote maghrébin en France. ce n'est rien. Mais dans le Michigan, ça peut être décisif. Et pourtant, le Parti démocrate ne fait rien pour essayer de convaincre ces milliers de milliers de gens qui se déclarent non-committed et qui disent « moi, je ne pourrai jamais voter pour Trump, mais je ne peux pas voter pour Kamala Harris compte tenu de la politique américaine », elle ne fait rien pour essayer de les convaincre de voter pour elle. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Cela veut dire que la pression qui vient d'un ensemble de forces, ce qu'on appelle les lobbies ici, mais les lobbies sont multiples. Il y a un enchevêtrement d'éléments. Par exemple, pourquoi dans les universités, la répression de mouvements pro-palestiniens est beaucoup plus forte que dans le passé pour d'autres mouvements? Parce que les grandes universités de recherche, comme la mienne par exemple, sont tellement imbriquées dans des projets de recherche avec Israël notamment. Et ces projets de recherche ne sont pas de la science abstraite, c'est des projets de recherche qui servent à produire des drones, par exemple, qui sont après utilisés. Il y a une telle imbrication entre la recherche, le militaire et le politique qui fait que ces pressions sont plus fortes que, disons, un simple calcul électoral, qui consisterait à dire, bon, pour gagner les élections dans le Michigan, il faut faire un effort pour gagner le vote. Et on sait très bien, Trump n'arrête pas de se plaindre de cela, que les Juifs américains votent à 80% pour le Parti démocrate et pas pour le Parti républicain, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump dans le camp républicain. Et ils savent très bien que la communauté juive américaine, tant qu'on puisse parler d'une communauté, est très divisée, et il y a beaucoup de Juifs aux États-Unis qui sont très critiques vis-à-vis de la politique de l'administration Biden. Donc ce comportement est inexplicable et très dangereux.
Mon cher Enzo, merci infiniment, vous dit le chat, par exemple un grand merci, vous dit Mr Coltrane, merci pour cette interview et ce moment de réflexion. Il y a plein de remerciements, très intéressant, un point de vue nuancé, c'est délicat de tenter de penser hors du manichéisme et de la propagande dominante, merci de nous y aider, Tirdim Poupette qui nous dit ça. Merci à vous deux. Merci Monsieur Enzo Traverso. Merci pour cette interview, etc., etc. Voilà, ça n'arrête pas. Et, vous avez parlé de jubilation. Eh bien, de temps en temps, il faut jubiler. Voilà. Merci beaucoup. Et je conseille vraiment votre livre. Moi, je vais rester un petit peu en très éloquent. Merci, monsieur, nous dit Dubachbé. Merci beaucoup. Merci pour l'entretien. Voilà, ça n'arrête pas. Vous pourrez revoir dans le replay si ça vous intéresse tous les gentils mots qui vous sont envoyés. Ça fait du bien. Faut pas se priver de ce genre de truc, quoi. Voilà. Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer un jour en chair et en os à Paris, à New York ou je ne sais où.
Merci à vous.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Merci infiniment.
Les amis, nous sommes sur Au Poste.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est Au Poste, Au Poste.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Au Poste.
J'encourage, faites un don à Au Poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Au Poste. Adonnez-vous Au Poste.
Et faites des dons à Au Poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Au Poste. Il faut donner
des
de l'argent
dons,
pour
abonnez-vous.
Que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous Au Poste.fr. Au Poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Au Poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Au Poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Au Poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Au Poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous Au Poste.fr, Au Poste.fr.
Oh, bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.